Ne me quitte pas, mon amour.
Les rencontres cinématographiques.
Qui cinéma ?
Et voilà, une émission spéciale aujourd'hui. C'est pas l'horaire habituel, mais je suis quand même ravie de vous accueillir donc pour parler cinéma avec les rencontres cinématographiques. Caroline Portal-Bord, la directrice des rencontres. Bamshad Pourvali et François-Xavier Durandy.
Bonjour.
Voilà. Donc, vous allez... Caroline, on va dire quelques mots sur ce festival indien qui est Histoire d'un regard, qui a commencé... Déjà, il y a quelques jours.
Oui, tout à fait. Le festival a commencé donc mardi 14 novembre avec une première séance et a débuté cette semaine, donc lundi, avec déjà quelques films en présence de nos deux invités ici présents. Et se poursuit encore ce soir pour deux séances ainsi que mardi prochain avec une troisième invitée, Charlotte Garçon, qui est rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma. Donc encore trois belles séances qui s'annoncent avec notamment une avant-première à 20h30 ce soir. Avec le film Last Film Show de Pan Nalin à 20h30.
Voilà, il y a eu quand même un bon public pour le début
de ces rencontres. Alors
pour
moi, nous sommes ravis, oui, tout s'est bien passé. Le public était présent en nombre, sur certaines séances notamment, et dans tous les cas, très ravis de cette programmation et enchantés de découvrir un cinéma indien un peu différent de ce qu'on connaît habituellement et surtout accompagné par des interventions, des explications et des possibilités de débattre aussi des films à la fin des séances avec soit Bamshad, soit François-Xavier.
On a vu que le public n'était pas forcément réactif pour le débat, hier soir par exemple, enfin après les courts-métrages en tout cas.
Oui, bah, certaines fois les gens aiment bien juste rester dans l'univers du film et peut-être ont des questions qui surgissent plus tard ou alors sont discrets, timides, mais... Je pense que dans tous les cas, ils apprécient les interventions qu'on peut leur proposer.
Ce n'est pas forcément un mauvais signe quand le public n'intervient pas. Ça peut être qu'il est encore effectivement sous le coup de l'émotion, sous le choc. C'est difficile de parler d'un film juste à la fin de la projection.
Oui, c'est vrai, on est encore dans l'émotion.
Mais c'était une très belle séance avec donc 5 courts-métrages, dont 3 présentés en première française, grâce notamment à François-Xavier qui nous a mis en relation avec certains réalisateurs. Et la petite surprise que nous avons pu réserver au public, c'est que certains réalisateurs avaient préparé une petite vidéo pour saluer le public ou présenter leur film à distance, puisque évidemment l'Inde n'était pas à côté, mais c'est une petite surprise qui a beaucoup plu au public et qui m'a touchée moi aussi personnellement, parce que c'est émouvant de voir les réalisateurs à l'autre bout du monde qui s'adressent à nous, public de Digne-les-Bains.
Alors, vous allez vous présenter plus en détail. Donc, Bamshad Pourvali, je vous ai déjà interviewé quelques fois, mais c'est toujours bien de se représenter.
Oui, alors, je suis universitaire, spécialiste notamment du cinéma iranien, mais aussi de l'essai au cinéma. Là, dernièrement, je viens de faire paraître un livre... sur cette question, et je suis présent pour accompagner certains films qui, pour moi, constituaient de véritables découvertes dernièrement concernant le cinéma indien, notamment un film de Manicol, Un jour avant la saison des pluies, ou bien présenter aussi un classique comme Le salon de musique de Satyajit Ray.
Et puis vous, donc François-Xavier.
Eh bien, je suis ici en qualité de traducteur, d'auteur de sous-titres, avec une spécialisation dans le cinéma indien de langue hindi. On est très peu à le faire, et voilà.
Oui, vous êtes très peu, vous êtes un bon traducteur, vous avez obtenu un prix.
Ah, je suis pas un mauvais traducteur, effectivement.
On peut le dire, comment on devient traducteur de films?
Alors aujourd'hui, il existe des formations spécialisées. Il y a plusieurs masters en France, dont un pas très loin d'ici, à Nice. Mais de mon temps, au siècle dernier, il n'y avait pas encore de master spécialisé. Donc je suis devenu traducteur, point barre. Et je me suis spécialisé dans la traduction de films un peu sur le tas. Donc j'ai fait un cursus de traduction et un cursus de langue hindi en parallèle à l'Institut des langues orientales, l'INALCO. Et avec ces deux casquettes, une casquette de traducteur qui connaît les techniques de la traduction et une casquette de spécialiste de la langue hindi, je suis devenu donc auteur de sous-titres pour le cinéma hindi.
Merci. On va parler, bon, évidemment, le cinéma indien, on l'a vu aussi dans quelques films, les courts-métrages hier aussi. La censure est bien présente dans le cinéma indien. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ?
Effectivement, ce que j'expliquais au public hier, c'est que les films en Inde, mais finalement comme en France, doivent obtenir un visa d'exploitation ou un certificat. Ce certificat est remis par l'Office central de certification des films, mais qui continue en Inde de jouer un rôle de comité de censure en décidant si un film sera visible par tous les publics ou bien réservé à un public adulte en particulier. Et il y a beaucoup de... pour des raisons qui sont pas que des mauvaises raisons, hein, pour des raisons de maintien de l'ordre public. On sait qu'en Inde, il y a des tensions, il peut y avoir des tensions communautaires, il y a des formes de violence politique. Une campagne électorale, c'est jamais de tout repos. En Inde, les esprits sont prompts à s'enflammer, et pour éviter des violences politiques, des violences interreligieuses, des violences de caste, etc., etc., il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ce que pense le législateur en Inde, qu'on n'a pas le droit de dire dans un film. Donc on évite d'une façon générale toutes les références trop directes à la politique, aux castes, aux religions, aux communautés d'une façon générale. Et puis l'Inde est une société traditionnelle, donc très longtemps on n'a pas vu de baisers dans les films indiens, ça a un peu changé. Maintenant, on voit le héros et l'héroïne qui s'embrassent sur la bouche, mais pendant longtemps, ça a été interdit. Et jusqu'à présent, les scènes de sexe sont impossibles dans le cinéma indien. Donc, ça fait beaucoup de choses à censurer. Et quand un film est présenté devant cet office central de certification des films, eh bien, il est très rare que celui-ci ne demande pas soit des coupes, soit de raccourcir certaines scènes. Partait d'un certain nombre de secondes. Une scène de violence, par exemple, est considérée comme trop longue. Alors, il y a une liste, et ce sont des documents publics, je crois. On dit, voilà, à 1h17, la scène de violence qui dure 32 secondes, vous allez la ramener à 20 secondes. Ça suffit, pas plus. Et puis, beaucoup de mots, de gros mots, d'injures qui peuvent être des injures sexistes, des injures racistes ou des injures fondées sur la caste, etc., doivent être soit réenregistrées, soit supprimées, soit bipées.
Et oui, ça fait beaucoup de travail, ça. Le montage.
Les censeurs ont beaucoup de travail et donnent beaucoup de travail ensuite aux réalisateurs et à la post-production, oui, effectivement. Parfois même, ce sont les sous-titres qui sont censurés. Donc il arrive, quand vous regardez la télévision, notamment en Inde, il arrive de voir, vous entendez un gros mot en anglais qui a été sous-titré, par exemple, en hindi, mais le sous-titre a été flouté.
Ah oui.
Parce qu'il ne faut pas qu'on entende un gros mot, mais il ne faut pas qu'on le lise non plus. Donc ça fait beaucoup de choses à censurer.
C'est difficile. C'est un peu par rapport au cinéma iranien, il y a cette similitude de censure aussi. Est-ce que c'est au même degré ?
Oui, enfin, on peut établir une comparaison, mais en gardant aussi la distinction propre aux deux cinématographies. Je pense qu'il y a malgré tout une liberté plus grande dans le cinéma indien que dans le cinéma iranien.
Enfin, ouais.
Voilà, c'est-à-dire, même si le cinéma iranien est très inventif, et c'est tout l'enjeu aussi de ce qui se passe depuis maintenant un peu plus d'un an en Iran, les femmes, en fait, la représentation des femmes est encore plus stricte, en fait, dans le cinéma iranien, concernant l'impossibilité, par exemple, de ne pas porter le voile à l'écran, puisque l'Iran est un pays où il y a beaucoup de salles de cinéma, et donc un film est forcément vu dans un lieu public, et que quand bien même la scène représentée est censée être une scène dans l'intimité, eh ben, de fait, elle ne sera pas dans l'intimité, elle sera dans un lieu public à travers une salle de cinéma. Alors que dans le cinéma indien, peut-être pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films de Bollywood, en fait, il n'y a pas cette interdiction dans toutes les scènes de l'absence du port du voile. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction en Iran de façon très affirmée là-dessus.
J'ai vu récemment un blockbuster de Bollywood qui est sorti cette année, qui s'appelle Pathaan, dans sa version doublée en persan. Et non seulement les chansons avaient été coupées, parce qu'il y a des chansons avec l'actrice principale en bikini, donc ça avait disparu de la version proposée aux Iraniens, mais j'ai constaté aussi que le décolleté d'une femme d'un certain âge, pas une jeune actrice, mais juste le décolleté, absolument pas provoquant, quelque chose qui on n'y penserait pas du tout vu d'ici, avait été flouté.
D'accord. Parce qu'il peut aussi être recouvert, et en fait, en ce sens-là, les censeurs iraniens travaillent peut-être plus encore que les censeurs indiens, justement, à remonter les films et à couvrir ou à flouter des parties du film. Parce qu'effectivement, le cinéma indien est très populaire en Iran, ce qui est un peu, effectivement... surprenant par certains côtés, mais le cinéma commercial iranien s'est même constitué à un moment, dans les années 50, véritablement en référence au cinéma indien et au cinéma égyptien. Donc on appelait ça les films Farsi, mais par rapport aux films hindi et aux films Mesri, voilà, c'est-à-dire avec égyptien, c'est-à-dire avec des chansons, avec des scènes... de disputes, etc. Donc il y avait le même principe en fait du cinéma commercial, puisqu'en fait ce sont les deux grandes industries à l'époque, dans les années 50 au Moyen-Orient, l'industrie égyptienne et l'industrie indienne, et il y a une très grande influence sur le cinéma iranien de l'époque. Et ce qu'il en reste en fait de ce cinéma-là, de ce cinéma commercial iranien aujourd'hui, pour moi il en reste beaucoup d'éléments, sauf que tout ce qui concerne les mœurs et la politique, enfin, il n'y avait pas beaucoup de politique dans le cinéma Farsi, mais il y avait beaucoup de... Enfin, c'était vraiment sur le modèle, disons, des scènes de cabaret aussi. Tout ça, ça a été enlevé, mais sinon, on a la même logique dans le cinéma commercial iranien. Donc, ce n'est pas étonnant que certains grands succès de Bollywood se retrouvent, en fait, en Iran, mais avec ces coupes-là, voilà, pour les amener dans le nouveau canon de la censure. Islamique, de la République islamique.
Le cinéma indien s'exporte, même s'il est encore assez peu connu en France, c'est un cinéma qui, historiquement, s'est énormément exporté dans le reste du monde. L'Union soviétique était très friande de films venant d'Inde. Il y a un acteur qui s'appelait Raj Kapoor, qui était un dieu vivant à Moscou lorsqu'il voyageait là-bas. L'Union soviétique était... L'Inde a longtemps été proche. C'est un pays non aligné, mais relativement proche de l'Union soviétique, le Pakistan étant proche des États-Unis, et l'Inde ayant a longtemps été en conflit avec la Chine. Donc l'allié naturel, c'était l'Union soviétique. Le cinéma, la littérature soviétique était importée en Inde, et le cinéma indien s'exportait beaucoup en Union soviétique, mais au-delà, donc dans tout le bloc socialiste, dans les pays d'Europe de l'Est en particulier, mais aussi pour peut-être des raisons de proximité en termes de société traditionnelle, de place de la famille, etc. Le cinéma indien était énorme et reste énormément regardé au Moyen-Orient, dans toute l'Afrique du Nord, j'allais dire, mais en réalité dans toute l'Afrique. Et bien souvent, enfin, il y a souvent les copies circulaient avec un double sous-titrage en arabe et en français, qui, je crois, a été souvent fait au Liban. Et voilà, donc c'est un cinéma qui a beaucoup été vu à une époque où on n'en avait pas du tout entendu parler en France.
De l'Ouest,
ouais. Et c'est pas que du Bollywood en Inde. La place des films Bollywood par rapport au public indien.
Alors, Bollywood, ça reste très important dans le cinéma indien, mais ce n'est pas la seule industrie cinématographique. Dans Bollywood, le B représente Bombay. Donc, c'est un mot qui a été calqué sur Hollywood, mais avec le B de Bombay. Mais dans toute la péninsule indienne, il y a plein de Hollywood, pas uniquement en Inde. Il y a un Kollywood, qui est l'industrie cinématographique du Népal. Vous avez un Lollywood à Lahore, au Pakistan. Et puis, en Inde, vous avez des tas de... Je vais me tromper, je vais en oublier, mais il y a Tollywood, Collywood, Nollywood, je crois, Mollywood,
ah oui.
au Kerala. Bref, vous avez pratiquement une industrie cinématographique par langue. Et il y a presque 30 langues qui sont reconnues officiellement en Inde, et donc presque autant d'industries cinématographiques. Les principales étant, on va dire les quatre principales sont le cinéma hindi, Bollywood, le cinéma en langue telugu, Tollywood, dont on a entendu parler récemment avec des films comme Bahubali ou RRR, qui a eu un grand succès. Vous avez Kollywood, qui, comme son nom ne l'indique pas, est l'industrie basée à Madras. Et je crois que le cas vient d'un quartier de Madras où se trouvent les studios de cinéma. Alors Madras, maintenant, c'est Chennai. Et Mollywood, c'est le cinéma en langue malayalam, donc le cinéma du Kerala. Donc les trois dernières dont j'ai parlé, la langue telugu, la langue tamoul et la langue malayalam, ce sont trois langues importantes du sud de l'Inde. Mais il y en a d'autres. Il y a un cinéma Punjabi, il y a un cinéma bengali, bien évidemment. Satyajit Ray, alors c'est pas du cinéma commercial, mais Satyajit Ray évidemment. Et il n'est pas le seul. Hein, Mrinal Sen ou Ritvik Atak sont les grands maîtres du cinéma bengali. Il y a un cinéma Bhojpuri, alors à l'opposé, qui est un cinéma très populaire, très considéré souvent comme un peu vulgaire. Il y a beaucoup, beaucoup de cinémas différents en Inde pour arriver à ces plusieurs milliers de films certifiés chaque année.
Et j'ajouterais que, en fait, si le cinéma bollywoodien est surtout connu, je dirais, depuis les années 2000, où il a commencé véritablement à circuler et à apparaître dans les salles, auparavant, en fait, en Europe, c'était plutôt, effectivement, le cinéma du Bengale, qui représentait plutôt un cinéma d'auteur, donc comme Satyajit Ray, dès les années 50, donc il est présent dès 56 au Festival de Cannes pour La Complainte du Sentier. Et donc, c'est à travers un cinéma qui était plus proche de ce cinéma européen, qui avait même des racines qui venaient donc aussi bien de Jean Renoir, puisqu'en fait, Satyajit Ray a commencé à envisager de devenir réalisateur, lui qui était dessinateur publicitaire, après avoir aidé Jean Renoir à faire des repérages pour Le Fleuve en 1950. Donc il y a eu un cinéma indien connu en Europe, mais je dirais que ce n'était pas effectivement maintenant Bollywood comme il vient tout de suite à l'esprit, disons, depuis 20 ans des spectateurs. C'était un autre cinéma un peu proche de ce qui se faisait aussi en Europe et que les festivals, du coup, pouvaient montrer, que ce soit Cannes, que ce soit Berlin ou Venise.
Et je crois que c'est en 2002 qu'a été montré au Festival de Cannes le film Devdas, qui est une super production très haute en couleur, avec beaucoup de danse, de paillettes, de chandeliers, de lustres, de cristal, de marbre, de soie, qui est un film intéressant à voir, avec des chansons et des danses qui valent le coup d'œil. Mais quand ce film a été programmé à Cannes, même si c'était pas en sélection, hein, mais c'était pas en sélection officielle, pas en compétition, mais c'était une séance spéciale de mémoire, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Je crois que ça a fait froncer quelques sourcils. Parce que c'était la première fois que ce cinéma populaire et un peu tape à l'œil, on va dire un peu bling-bling, s'invitait au festival.
Mais ce qu'on peut faire remarquer, c'est qu'à peu près à la même époque ou peu de temps après, il va aussi y avoir de plus en plus cette influence de Bollywood dans d'autres films. Je pense à Moulin Rouge, par exemple, de Baz Luhrmann, que je trouve très intéressant personnellement, parce que ça se passe donc à Paris, mais ça mêle le clip des années 80, les clips des années 80, ça mêle la comédie musicale américaine, et aussi pour moi une grande partie, puisque à l'intérieur du film, il y a aussi l'histoire d'un Maharaja. Donc, très explicitement, il y a aussi cette référence à Bollywood, cette référence... Disons qu'il y a tout un cinéma du Sud, et Baz Luhrmann est australien, qui commence à s'imposer à partir des années 2000, à redessiner un peu un paysage cinématographique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit aussi de l'importance de ce cinéma, même s'il a mis un peu de temps, peut-être, avant d'être pleinement reconnu et identifié, disons. Le cinéma indien commercial qui pendant longtemps n'était pas diffusé, comme il vient d'être dit, dans les grands festivals européens.
Pour revenir au festival de Digne, c'est la première fois que vous faites un festival de films indiens ?
Alors, consacré spécifiquement au cinéma indien, oui. Certains autres films indiens ont dû être montrés par le passé, mais effectivement, spécialement sur l'Inde, c'est la première fois. Et le public est ravi. Donc
oui.
C'est bien, je pense, aussi de pouvoir présenter quelque chose d'un peu différent. Et justement, un mélange entre des films de patrimoine comme Le sang de musique de Satyajit Ray ou Un jour avant la saison des pluies de Manicol, mais aussi des films plus actuels et qui montrent aussi un peu les cinéastes d'aujourd'hui et ceux qui sont primés dans les festivals actuellement. Et aussi, avec le programme de court-métrage qui est passé hier, la nouvelle génération, donc les étoiles montantes du cinéma indien. Et certains de ces réalisateurs ont actuellement des grands projets et feront parler d'eux dans le futur, je pense. C'est aussi ce qui était prévu de montrer à travers ce programme.
Oui, oui, c'est certain. La difficulté pour programmer une semaine de cinéma indien, d'abord, c'est qu'on va forcément faire des impasses. Je vous ai dit qu'il y avait au moins une dizaine d'industries cinématographiques différentes en Inde. Alors là, on arrive à couvrir trois langues, le hindi, le bengali et le gujarati, mais il nous manque les langues du sud. Et puis, on fait aussi... C'est difficile de programmer... les films populaires indiens qui durent rarement moins de 2h15.
Oui, c'est ça.
Et qui peuvent durer bien plus que 3h. Et ça, c'est pas évident. Bon, on fera ça bientôt, j'espère, une prochaine édition. Mais pour
c'est
entrer dans
typique,
le bain.
Typique des films indiens, ils sont souvent très longs.
Ils sont souvent très longs, ne nous le cachons pas. Et alors, ils sont conçus dès l'étape de l'écriture pour être en deux parties. Les films en Inde sont projetés avec un entracte qui permet de manger des samosas le plus souvent, de boire une boisson fraîche, d'aller fumer ou d'aller aux toilettes, bien sûr. Mais donc, les films sont longs et coupés en deux. Et c'est intégré dès l'étape du scénario. Donc, et souvent, on analyse les films, les critiques de films en Inde intègrent ça aussi à leur critique en disant « Ah, la première moitié, ça va, mais la deuxième moitié, ça, ça s'essouffle un peu. » Et donc, il y a un point culminant que l'on atteint juste avant l'entracte.
Et nous avions envisagé de faire une séance à l'indienne avec l'entracte, mais le film qui était choisi n'a malheureusement pas pu venir jusqu'à nous.
Il s'est perdu en route.
On a eu des difficultés à obtenir pour diverses raisons, mais ça a été le cas aussi pour d'autres choix de films. Il y avait plusieurs envies, mais les distributeurs étaient injoignables, ou alors on se retrouvait avec des films qui n'étaient pas traduits. Beaucoup de films avaient été vus par François-Xavier dans d'autres occasions, ou alors il avait pu les sous-titrer dans d'autres langues peut-être, mais en tout cas, on n'avait pas la version française, donc c'était difficile.
C'est toujours comme ça hein, quand on fait un programme pour un festival, il y a les films qu'on aurait voulu montrer, puis les films qu'on arrive à montrer à la fin, mais on est quand même très content de ce qu'on... Il y a tellement de choix de toute façon qu'on arrive à montrer que des choses qu'on aime et qui valent le coup d'œil.
Et ce qui m'a surprise, c'est que certains distributeurs me disaient qu'ils avaient les droits d'un film pour un mois, par exemple. Ils projetaient pendant un mois, j'imagine, dans les grands cinémas parisiens, où il y a beaucoup plus de public, peut-être, qui est intéressé par ça au quotidien. Et ils perdaient les droits au bout d'un mois.
Ah oui.
Donc, il y avait un film, j'ai oublié le nom, mais on m'a dit « Non, non, on a eu les droits que pour le mois d'août 2021. » Ah, d'accord, il n'y a plus de droits. Donc, maintenant, c'est pas, personne ne les a en France et malheureusement, ça a été le cas pour quelques films où on n'a pas pu les sélectionner. Mais en cherchant bien, on a réussi quand même à retenir 9 films indiens sur 15 jours. Donc ça reste quand même une belle sélection, effectivement. Et puis pour ceux qui ne sont toujours pas sous-titrés, on a bon espoir de pouvoir les programmer dans le futur lorsqu'ils seront disponibles en France. Donc on garde tout ça sous la main.
Il faut savoir, parce que le public s'en rend peut-être pas toujours compte, mais c'est pas évident de montrer un film. C'est pas évident de programmer un film et de dire on va le montrer tel jour à telle heure. Ça se passe pas comme ça, on fait pas son marché dans un... Enfin, les films sont pas en libre service. Il y a des questions de droit, il y a un film, je sais pas si on parle du même, mais moi j'aurais adoré qu'on puisse vous montrer Lal Singh Chadha, que j'ai sous-titré l'an dernier, qui est un film produit et distribué par Paramount. Et même Paramount, cette année, n'a pas réussi à nous accorder le droit de montrer ce film. Donc il y a des films dont les droits se perdent. Il y a des films, disons-le aussi, dont les ayants droit demandent... Enfin, pour lesquels les ayants droit demandent des sommes exorbitantes, qui ne sont pas à la portée qui sont à la portée d'un tout petit nombre de festivals dans le monde, à mon avis. Et il y a beaucoup d'obstacles à la circulation, des films. C'est moins facile qu'il n'y paraît.
Et puis certains films sont directement passés en DVD aussi. Devdas, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, était disponible en DVD, mais impossible de savoir qui nous donnait les droits de diffuser le film publiquement. Donc, il y a quelques films un peu anciens, comme ça, des grandes fresques historiques, avec de l'aventure, de l'amour, tout ça, qui n'existent plus qu'en DVD aujourd'hui en France. Donc, nous, on préfère passer par une qualité cinéma, vraiment, avec des vrais fichiers cinéma, donc des DCP. Mais il faut arriver à mettre la main sur le bon distributeur et que le distributeur réponde favorablement, que les droits d'accès, effectivement, les tarifs soient quand même abordables. Et il y a eu quelques rebondissements pendant le festival et jusqu'à la dernière minute, on a vraiment eu des surprises. Mais voilà, finalement, tout se passe bien et c'est chouette. On est content.
Oui, ça se passe. Tout est bien qui finit bien. Mais il y a des films qu'on aurait aimé aussi vous montrer et on s'est aperçu qu'ils existaient, ils étaient déjà disponibles sur certaines plateformes.
Oui.
Ce qui à la fois est une bonne chose. Ça permet au public d'avoir accès à des films du cinéma indien. Et c'est pas toujours une très bonne chose parce que sur les plateformes, les films indiens sont pas toujours très bien. Enfin, ils sont jamais en réalité traduits de façon professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont toujours traduits par l'intermédiaire d'une langue relais, l'anglais. Donc ils sont traduits une première fois du hindi, par exemple, vers l'anglais, et ensuite uniquement de l'anglais vers le français. Donc, pour dire les choses simplement, ils sont traduits par des gens qui comprennent pas le film. Donc on a évité ces films-là, vous les retrouverez sur vos plateformes favorites, dont vous connaissez les noms. Et voilà, donc beaucoup d'obstacles pour la programmation de ce festival.
Et quand vous traduisez un film, est-ce qu'il y a quelqu'un qui supervise encore, qui contrôle que vous avez bien traduit ou c'est, on vous fait confiance, évidemment?
Alors, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. En principe, oui, on me fait confiance. Mais plutôt que de contrôle... Enfin, oui, on pourrait parler de contrôle qualité, mais il y a une relecture, disons, que dans notre jargon, nous appelons simulation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a préparé les sous-titres d'un film, en principe, on s'assied avec le producteur ou le distributeur ou un de ses représentants dans une salle, et puis on passe le film et on regarde comment ça se passe. Et c'est très précieux pour les traducteurs, parce que nous qui comprenons l'original et qui comprenons nos sous-titres, on s'aperçoit pas forcément de certains décalages qui peuvent se produire. Et donc on est toujours très attentif et on est très ouvert à cette discussion qui a lieu pendant la simulation où quelqu'un nous dit « mais je comprends pas pourquoi il dit ça, ça c'est pas tout à fait clair, de quoi parle-t-on, etc. » Enfin, un regard extérieur d'une personne qui comprend pas la langue source, finalement c'est très précieux, ça nous permet d'améliorer nos sous-titres. Donc dans l'idéal, oui, nos sous-titres sont contrôlés, si vous voulez, ou relus, et par une personne naïve qui les découvre, et c'est très très important.
Alors j'imagine que vous avez beaucoup de travail, qu'on fait beaucoup appel à vous pour traduire, ou comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez dire non à un film qui vous plaît pas spécialement? Est-ce que ça peut vous arriver de refuser la traduction d'un film?
Alors ça m'arrive, mais quand j'entre dans un projet, le film commence à me plaire en fait. Je perds toute objectivité et je m'identifie au film et j'ai du mal à le... Je vois plus ses défauts. On ne fait pas forcément tant appel à moi que ça, puisque je vous l'ai dit, cette masse de ces dizaines, peut-être centaines de films qui sont disponibles sur les plateformes ne sont pas traduits par des gens comme moi qui parlent la langue d'origine. C'est le cas pour le hindi, mais c'est le cas pour bien d'autres langues sur les plateformes, pas toutes. Donc certaines langues sont privilégiées. Il me semble que en japonais ou en persan, c'est moins... Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que dans certaines langues, peut-être mieux considérées, on fait appel à des gens qui parlent effectivement japonais ou persan. Pour le hindi, on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce qu'il m'arrive de refuser des films? Non, pas tant que ça. Ça s'équilibre. J'arrive à trouver de la place pour la plupart des films qu'on me propose.
Combien de temps il faut pour faire une traduction?
Il faut du temps. Il faut du temps.
Vous avez le scénario à lire ou c'est pas en voyant le film?
Dans l'idéal, on me fournit en même temps que l'image du film, en même temps que la vidéo, on me fournit un scénario avec les dialogues, et les dialogues tels qu'ils ont été enregistrés au moment du tournage. Parce que parfois, entre les dialogues qu'il y a dans le scénario et ce qui est réellement monté, il peut y avoir des différences. Donc en principe, on ne travaille pas à l'oreille. on a effectivement le scénario, la continuité dialoguée. Et combien de temps il faut ? Alors, c'est assez simple. Retenez que pour sous-titrer une minute de film, il nous faut à peu près une heure. Parce que on sait pas de l'interprétation simultanée, on appuie beaucoup sur pause, on réfléchit, on reformule, on raccourcit, on fait notre cuisine, quoi, notre tambouille de traducteur, et il nous faut à peu près une heure pour sous-titrer une minute, ce qui veut dire que pour un film d'une durée, mettons, de 100 minutes, il nous faut 100 heures de travail, ce qui correspond à peu près à 3 semaines. Mais rappelez-vous aussi que les films indiens, souvent, durent 2h15, 2h30, presque 3h. Donc il faut au moins 3 semaines et peut-être un mois ou plus, un mois et demi, pour sous-titrer proprement un film indien.
Merci. On revient sur les films qui restent à voir. Donc, et puis après, vous nous parlerez de vos actualités. Parce que Bamshad Pourvali, par exemple, vous sortez encore un livre, donc vous en parlerez.
Très bien.
Alors, ce soir à 18h15, Umrika de Prashant Nair, qui est un film qui évoque la conquête de l'Amérique. Donc, un des villageois part en Amérique et ceux qui sont restés au village vont suivre ses aventures à travers des cartes postales. C'est un feel-good movie entre Slumdog Millionaire et The Lunchbox, qui avait eu un prix du public au Festival de Sundance 2015. Et par exemple, les acteurs sont quand même connus. Il y a un Suraj Sharma qui était celui qui a joué dans L'Odyssée de Pi, si je ne me trompe pas. Et Tony Revolori qui était le garçon d'hôtel dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Donc ces deux visages connus, peut-être les noms le sont moins, mais voilà, peut-être que le public pourra les reconnaître. Et en deuxième partie, à 20h30, Last Film Show, qui sera présenté donc en avant-première exclusive, qui est le dernier film de Pan Nalin, et qui est un film autobiographique, puisqu'il raconte comment il a découvert le cinéma en pouvant monter dans la cabine de projection, découvrir les films. Il y avait une sorte d'échange avec le projectionniste qui donnait son repas en échange de la possibilité de regarder des films. Et de là est né son désir de devenir réalisateur, alors qu'il venait d'une famille très défavorisée. Et c'est un prix dans la langue Gujarati.
C'est ça.
Donc c'est une des trois langues qu'on présente dans le festival, qui à notre oreille, on s'en rendra pas forcément compte, mais François-Xavier pourra en dire quelque chose. Et donc nos deux invités seront là ce soir pour cette séance. Et pour clôturer le festival, ce sera mardi prochain, Le Fleuve, donc mardi 28 novembre à 20h30, Le Fleuve de Jean Renoir, dont parlait Bamshad tout à l'heure, qui sera présenté par Charlotte Garçon, qui est critique et rédactrice au Cahier du cinéma. Et c'est un film donc, qui fait aussi le lien avec notre première séance, donc le salon de musique de Satyajit Ray, puisque Satyajit Ray a participé au tournage de ce film, et c'est même un des films qui lui a donné envie d'être réalisateur. Et aussi, c'était un des premiers films en couleur de Jean Renoir, et il me semble un des premiers films tournés en technicolor en Inde aussi, si je ne me trompe pas. Donc... c'est un film d'un réalisateur français tourné en Inde. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernière partie de festival, parce que ce n'est pas à proprement parler un film indien, mais qui a quand même marqué aussi beaucoup de réalisateurs indiens, qui a donc toute sa place dans cette programmation. Et on peut aussi noter qu'au niveau des animations, après avoir eu donc un concert et une exposition photo, on vient de recevoir encore une deuxième expo photo avec un peu de retard, qui sont des photographies de Nemai Ghosh, qui était le photographe officiel de Satyajit Ray. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, sachez que vous pourrez redécouvrir encore une nouvelle petite exposition photographique au Centre culturel, dans le hall, jusqu'à mardi prochain. Voilà. Donc, pour ces films-là, je ne sais pas si vous voulez compléter, dire quelque chose en plus, nos auditeurs.
Oui. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, mais certainement Charlotte Garçon en parlera par rapport au fleuve, c'est que c'est un moment très important, je dirais, après l'indépendance, de reconnaissance de l'Inde, le fait que plusieurs très grands réalisateurs vont faire leur voyage en Inde, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a Jean Renoir, il y aura Georges Cukor, je crois en 56, qui va faire La Croisée des Destins avec Ava Gardner. Il y aura Rossellini qui fera en 58, 59 India. donc un documentaire, et il y aura Fritz Lang qui va faire le Tigre du Bengale et le Tombeau hindou. Et donc voilà, il y a toute une période comme ça dans les années 50 où l'Inde, le cinéma en fait indien se retrouve indirectement dans ces films de très grands réalisateurs qui éprouvent en quelque sorte le besoin en fait de passer par l'Inde. Donc c'est quand même des très très grands noms en fait qui réalisent des films à ce moment-là. Et je ferai un parallèle, si c'est possible, avec le film Last Film Show que l'on voit ce soir, parce que c'est un film effectivement biographique, mais un peu transposé, puisque le réalisateur situe son action en 2010, donc à un moment important dans l'histoire du cinéma récent, puisque c'est le passage... De la pellicule au numérique, et finalement c'est une réflexion sur 115 ans d'histoire du cinéma, si on part de 1895 jusqu'en 2010, en essayant en fait de repenser cette histoire-là, mais en passant par l'Inde. Voilà, c'est-à-dire que je ferai ce parallèle entre la manière dont il y a une sorte de relecture de l'histoire du cinéma dans Last Film Show à partir de l'Inde, et la manière où, au milieu de l'histoire du cinéma, qui correspond aussi à l'indépendance de l'Inde, il y a eu aussi de très grands réalisateurs qui sont passés par l'Inde, et on en parle parfois avec François... Xavier, c'est que tout ça nous renvoie aussi peut-être même à l'origine de la première projection des Frères Lumière qui avait eu lieu le 28 décembre 1895 dans un salon, donc c'était à Paris, mais dans un salon qui s'appelait le Salon Indien. Donc en fait, l'Inde, directement ou indirectement, ou symboliquement, est présente au tout début de l'histoire du cinéma, la première séance payante, au milieu de l'histoire du cinéma, après l'indépendance du pays, et peut-être... aujourd'hui, à travers ce film que l'on montre en avant-première, Last Film Show, qui pour moi est un film que je trouve personnellement très beau, parce que il y a une manière en fait d'articuler le passé et le présent, mais par le regard d'un enfant indien.
Si la première séance de cinéma public payante en France a effectivement eu lieu au Salon Indien, c'est une pure coïncidence, mais c'est comme un signe du destin. Et c'est une coïncidence, mais ça prouve bien aussi que l'Inde nous fascine depuis toujours. L'Inde évoque un faste, une opulence, un mystère. Les fakirs ont fasciné les Occidentaux bien avant l'invention du cinéma. L'Inde a fasciné Jules Verne. Et c'est une fascination qui marche dans les deux sens. Et donc le film de cet après-midi, ou du début de soirée, Amrika, c'est la prononciation populaire en hindi de America, donc l'Amérique, les États-Unis en particulier. C'est un film sur cette fascination que l'Occident exerce sur les Indiens, y compris en milieu rural. Et donc, tous ces films tournent autour de la fascination de l'autre, et puis une fascination, enfin un monde étranger très lointain qui évoque une forme de magie. En Amérique, pour les Indiens, tout est possible. Et pour les Occidentaux, les Occidentaux ont rêvé d'une Inde où les fakirs faisaient des choses extraordinaires, prodigieuses. Et l'autre chose que je voulais dire, ce qui m'intéresse dans le programme d'aujourd'hui, de ce soir, où on a America et The Last Film Show, qui sont deux films qui tournent autour d'une notion très indienne qu'on appelle en hindi le jugaad. Le jugaad, c'est la façon de se débrouiller quand on n'a pas grand-chose. C'est le système D à l'indienne, mais c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie quotidienne en Inde, où on a très peu de ressources, beaucoup d'envie, envie de s'en sortir, envie de réussir, envie de faire marcher des choses qui ne devraient pas marcher parce qu'on n'a pas les moyens. Et on bricole constamment en Inde. Donc ça peut prendre la forme de vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des machines bricolées, des motos bricolées, des moyens de transport bricolés pour faire tenir beaucoup de gens. Et les Indiens sont extrêmement ingénieux. Ils n'ont pas beaucoup de ressources, mais ils ont beaucoup d'idées. Et vous verrez dans The Last Film Show comment, quand on est un petit garçon pauvre de la campagne du Gujarat, donc dans l'ouest de l'Inde, et qu'on a cette fascination pour le cinéma, qu'on n'a aucune chance de pouvoir faire du cinéma un jour, quoique, on verra avec Panaline, mais on peut avoir la motivation, essayer de trouver des moyens, des bouts de ficelle et des morceaux de briques et de broc pour essayer de donner corps à sa passion. Ça, c'est une leçon que l'Inde a pour nous. Le Jugaad, on serait bien inspiré de s'en inspirer, justement, d'apprendre à bricoler plus pour aller jusqu'au bout de nos rêves.
Merci, merci à vous trois pour donc ce beau programme et ces commentaires, pour en savoir un peu plus sur le cinéma indien. Je vais vous laisser la parole, Bamshad Pourvali, puisque vous êtes docteur en cinéma, spécialiste de l'essai filmé du cinéma iranien et auteur de plusieurs livres. Vous allez nous en parler, puisque vous venez de publier l'essai au cinéma de Chaplin à Godard.
Oui, c'est un livre en fait qui est inspiré de ma thèse de doctorat, qui reprend quelques éléments de deux livres aussi que j'avais publiés précédemment, l'un consacré à Chris Marker, l'autre à Jean-Luc Godard, et qui est en fait est une tentative pour réfléchir sur la généalogie d'une forme cinématographique qu'on appelle l'essai. Et si j'ai décidé de sous-titrer ça de Chaplin à Godard, c'est que pour moi le point de départ en fait de cette forme, ce serait la naissance de ce qu'on a appelé à un moment donné le cinéma moderne, et que personnellement je situerais avec la fin du Dictateur de Charlie Chaplin, qui justement est une séquence qui se passe à la radio.
Du film Le Dictateur, hein, parce que Charlie Chaplin n'était pas un dictateur.
Enfin, je pense qu'on comprend.
Oui, on le sait, tout le monde le connaît.
The Great Dictator de Charlie Chaplin, mais qui est le premier film parlant de Chaplin. Et c'est vraiment cette dernière séquence qui, pour moi, mêle aussi un peu documentaire et paroles, en fait, à un moment particulier de l'histoire, puisque c'est la réponse, en fait, à, pour le coup, un véritable dictateur à la même époque, donc au début de la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, en fait, c'est à partir de là que cette forme va se développer, notamment à travers le cinéma de guerre américain. Il y a une série coordonnée par Frank Capra qui s'appelle « Pourquoi nous combattons ?», qui pour moi va avoir une influence ensuite sur des cinéastes comme Chris Marker ou Alain René après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et de tout ça, en fait, on arrive pour moi à l'existence d'une forme cinématographique donc pratiquée par des cinéastes très différents pour essayer en fait de rapprocher fiction et documentaire et utiliser les outils du cinéma pour penser le monde contemporain, le monde moderne. Donc c'est ce travail-là, c'est cette naissance d'une forme et son développement que j'ai essayé de retracer dans, je ne vais pas dire ce petit livre parce qu'il est assez gros. Il est de petit format, mais avec un nombre de pages relativement important, puisque, encore une fois, c'est un travail de recherche, mais qui se veut, en fait, aussi une sorte d'outil pour donner aussi envie au lecteur, en fait, de découvrir parfois des films moins connus de cinéastes très connus, et puis, en fait, de s'apercevoir que, par exemple, parmi les essayistes, eh ben, il y a Agnès Varda, il y a Orson Welles, enfin voilà, il y a des noms, disons, connus du grand public, pas forcément pour leurs travaux dans le domaine de l'essai, mais qui ont aussi travaillé dans ce domaine-là. Et donc, voilà, c'est une forme que je voulais aussi un peu mettre en avant, parce que même si parfois on connaît certains films qui relèvent de l'essai, en fait, il n'y a pas forcément une réflexion sur cette forme elle-même, sur son histoire. Donc, même si ça peut paraître un peu provocateur de vouloir partir de Chaplin, c'est peut-être une insistance sur le fait que ce n'est pas pour moi uniquement une forme marginale, c'est une forme certes mineure en termes de production, qui est aussi inscrite à l'intérieur pour moi de l'histoire du cinéma, et pas à l'intérieur d'une autre histoire du cinéma, mais à l'intérieur de l'histoire du cinéma classique, si on peut dire, ou son prolongement moderne, en fait. Mais voilà. Et pour moi, c'était important de pouvoir insister sur ce point-là. Voilà, ne pas en faire une œuvre détachée du reste de la production cinématographique, même des auteurs en question. Par exemple, la première phrase que j'ai mise en exergue du livre, c'est une phrase d'Orson Welles qui expliquait que s'il pouvait se détacher de toute contingence économique, il ferait uniquement des films essais, parce que c'est ce qui lui tient à cœur. Et juste comme ça, pour donner un autre exemple, et un dernier exemple, c'est que si on y réfléchit, par exemple, un film comme Citizen Kane, qui est un film très connu de l'histoire du cinéma, Citizen Kane nous raconte l'histoire d'un magnat de la presse, mais Citizen Kane nous est raconté à travers une équipe de journalistes d'actualité qui essayent de refaire le portrait du citoyen Kane, parce qu'ils estiment qu'il faut refaire un travail documentaire, mais un peu plus intime. Et pour moi, le sujet de Citizen Kane, c'est comment réinventer, en fait, ou inventer une forme cinématographique qui mêlerait intimité, histoire personnelle et collective. En fait, c'est une des définitions possibles de l'essai. Donc c'est pour dire que c'est pour moi une forme importante, mais finalement peu identifiée dans l'histoire du cinéma.
Alors, est-ce que ça s'adresse à tout public ou simplement aux amateurs ou aux initiés? Il faut être...
Alors, en fait, c'est un travail universitaire, mm-hmm. mais c'est un travail universitaire qui a été réécrit. Donc, c'est un travail de recherche qui se veut quand même ouvert à un public qui veut approfondir, en fait, et qui a du temps et le désir, en fait, aussi de mieux connaître ces films. Et en fait, ce qui, pour moi, est aujourd'hui intéressant, c'est que pendant longtemps, ces films-là étaient très peu accessibles. Or, aujourd'hui, à travers les DVD, à travers Internet, on peut trouver ces films. Et en fait, pour être aussi franc et pour s'inscrire dans notre discussion, c'est que pour moi, ça s'adresse aux spectateurs, on va dire, curieux qui veulent approfondir, mais ça s'adresse aussi aux programmateurs qui veulent aussi pouvoir avoir connaissance d'œuvres qui répondraient à cette forme-là et qui viendraient compléter des programmations. Par exemple, j'ai présenté un film de Manicol qui n'est pas un essai, mais il se trouve que Manicol a fait des essais documentaires sur la musique, qui ont été montrés dans des festivals consacrés à l'essai. Et donc, voilà, il y a toujours aussi un peu le problème de trouver la possibilité, le moyen de programmer ces films. Mais je pense que ça fait partie de l'ambition, disons, de ce livre, de susciter la curiosité du plus grand nombre par rapport à une histoire du cinéma à travers des œuvres moins connues, mais de cinéastes aussi très connus parfois.
Et on trouve ce livre où ?
On le trouve dans toutes les librairies, voilà. Où on peut le commander et sur tous les sites aussi où il peut être commandé.
Donc, l'essai au cinéma de Chaplin à Godard, Créafis, c'est le nom de maison d'édition. 2023, et donc par Boomchat de Pourvali. Merci. Est-ce qu'il y a un mot de la fin avant de nous quitter ?
On vous attend nombreux encore pour les prochaines séances.
Voilà,
on espère
d'accord.
Vous retrouver pour discuter autour des films qu'on aura projetés, et puis sinon, on vous retrouvera une prochaine fois.
Voilà. Merci François-Xavier Durandy.
Merci.
Et vous aussi, vous avez des projets
Toujours. Serai prochainement au Festival des Trois Continents à Nantes avec un grand film de la grande époque des années 70, première française aussi. Et puis je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous verrez deux films que j'ai sous-titrés qui devraient sortir en salle. Agra de Canobel, qui était au Festival de Cannes cette année, à la quinzaine des cinéastes, très exactement. Et puis Girls Will Be Girls, qui est un film féministe qui va sortir, j'espère, au début de l'année 2024 par Shuchi Talati, une coproduction franco-indienne.
Peut-être que vous verrez ces films-là aux rencontres cinématographiques.
Je l'espère.
Voilà. On va se quitter avec une petite musique d'ambiance, si ça marche, du concert, magnifique concert qui a été donné donc pour l'inauguration du festival avec Dimitri Geskin et Stéphane Thomas. Dimitri Geskin au bol chantant, Phil appelle ça le bol chantant,
aussi.
Le gong. Oui, c'était magnifique, hein, et au niveau du son autant que de la vue. Et Stéphane Thomas avec plein de
flûtes carnatiques. Ouais.
Voilà, c'était magnifique. On écoute ça et puis eh bien ce soir au cinéma.
Merci aussi.
Salle des rencontres cinématographiques à Digne-les-Bains.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Merci, au revoir.
Karishami Sidi Bhavatu Mesara Sarasvati Pane Kamaru Vidyarambam Karishami
आशुतोष और मैं हूं पंकज जो एसआई तो पार्ले ऑफ फ्रांसे दो जो हूं प्री द मई एक्सक्यूजे टू मेज एरर अलोर बोंजूर नोज आमी द दीनी लेबा ए बिया वेन्यू आ सेट प्रोजेक्शन टू द बोर ओ वुड्रे रेमर्सिए रॉन्कॉन्ट्र सिनेमाटोग्राफी टूत ले एकीप द रॉन्कॉन्ट्र सिनेमाटोग्राफी पूर सेट अपॉर्चुनिटी On est très, très content, très heureux de recevoir votre amour pour notre film Pilibhit. C'est très, très motivant pour nous.
और हम बहुत बहुत आभारी हैं फ्रांसुआ वे गोरंबी जी के
लव यू फ्रांसुआ
जो न सिर्फ हमारी फिल्म बल्कि तमाम हिंदी फिल्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया भर में पिछली बार भी आपके यहाँ जब आपने हमें प्राइज दिया था हमारी फिल्म पीलीभीत को
प्री व्यू पब्लिक
तब भी फ्रांसुआ जी ने हमारी फिल्म का प्रतिनिधित्व किया था और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके जो दोबारा हमारी फिल्म पीलीभीत को दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे उम्मीद करेंगे कि आने वाले किसी समय में ऐसा हो कि हम आपके बीच बैठकर दुनिया की तमाम बेहतरीन फिल्मों का मजा ले पाए
अलोर ओ सुएट अ ट्रे बो फेस्टिवल
मेर्सी
बोकू
Les rencontres cinématographiques.
Digne-les-Bains!